6h02, nous sommes mercredi 15 janvier. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Ce matin, autour de moins 5 degrés, ciel généralement nuageux. On prévoit 40 % de probabilité d'averse de neige ce matin, mais pas vraiment d'accumulation. Maximum autour de zéro. Ce soir et cette nuit, on a de la neige, mais vraiment en fin de soirée. Donc, on peut dire que ça va commencer autour de 11h minuit et ça va se poursuivre durant la nuit. On parle d'une accumulation de 5 cm. On est loin de ce qu'on avait anticipé. La neige devrait cesser en après-midi, ce qui fait qu'au total, là, on devrait probablement avoir quelque chose comme 5 cm de neige. Par endroit, les vents pourraient être un facteur et donc causer de la poudrerie, ce qui pourrait compliquer un peu l'heure de pointe demain. Mais là, on n'est pas dans le scénario catastrophe, là. C'est 10 cm de neige au Québec, il n'y a rien là. Et ça va s'étaler en plus sur toute la nuit et durant la journée. Et finalement, vendredi, retour du soleil, temps beaucoup plus froid, moins 12 degrés. Et l'aperçu pour la fin de semaine, deux journées nuageuses, deux journées de neige intermittente, autant donc samedi que dimanche. J'ai lu les deux jugements rendus par ce magistrat dont il faut souligner, je dirais, la pertinence. Deux dossiers qui concernent ces deux enfants dans l'environnement de la petite fille qu'on peut appeler la petite martyre de Granby. Le juge s'appelle Mario Gervais. Ce qu'il dit en gros, c'est que l'enfant de 5 ans a non seulement été témoin des sévices infligés à la petite fille par le père et la belle-mère, mais que lui-même a été victime d'abus, que lui-même a été frappé, que lui-même a été maltraité, sans parler de la violence verbale. L'enfant a raconté qu'on lui faisait prendre des douches d'eau froide, qu'on lui mettait l'eau dans le visage, le jet, là, la pression dans le visage, qu'on l'a attaché avec la ceinture du bonhomme, qu'on le frappait en lui disant de se fermer la gueule. Et en plus de ça, il voyait les mauvais traitements infligés à la petite fille. L'autre, qui a 14 ans, semble moins perturbé, a peut-être été moins exposé à la violence. Et là, le juge dit que cet enfant-là a été et je dirais, demeure hypothéqué pour la vie. Il y a des problèmes, des retards importants. C'est un enfant qui souffre. C'est un enfant qui a vécu un calvaire. Et c'est un enfant qu'on a échappé. Parce que le juge est précis, blâme la DPJ. Et là, on est loin du rapport insignifiant de l'été passé, où on n'avait pas de responsabilité. On faisait un constat. Je me souviens, au retour des vacances, d'avoir parlé avec le DPJ qui me disait, ben non, il n'y a pas de responsabilité. C'est une question de ressources. Tu sais, l'espèce de « je protège mon cul en priorité », là, ben c'est ça qu'on avait comme discours. Le juge leur met ça d'en face en disant, minute là. Des gens ont été nommés pour s'occuper d'un dossier, des gens qui n'avaient pas le temps, des gens qui étaient surchargés, des gens qui travaillaient à temps partiel. Ce qui fait que l'enfant n'a jamais été vu et protégé. Ou à peu près pas, je pense, une fois, là. Il n'y a pas eu de suivi. Alors qu'on aurait dû s'en occuper. Et le juge dit, vous prenez mes jugements, là, puis vous envoyez ça à Régine Laurent, qui d'ailleurs était à Granby hier soir, des audiences régionale, je pense une cinquantaine de personnes qui se sont présentées. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? D'abord, c'est que cet enfant-là a été martyrisé. Il n'est pas décédé. Pas comme l'autre, pas comme la petite fille. Mais vous imaginez, là, l'hypothèque sur un enfant de 5 ans. Sa vie, là, de 0 à 5, ça a été quoi, vous pensez? Deuxièmement, ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'il y en a d'autres cas comme ça au Québec. D'autres cas où des juges donnent des décisions, rendent des jugements, ordonnent une série de mesures et que les mesures ne sont pas exécutées. Ce n'est pas un cas unique, ça. Ce n'est pas un cas rare ou marginal. Ça arrive souvent. Avec toujours comme même réponse, on n'a pas de ressources, on ne peut pas s'en occuper. Puis là, tu découvres ça 6 mois, 1 an après, ou quand, évidemment, une tragédie se produit. Et là, les gestionnaires de haut niveau, ceux qui sont responsables, évidemment, entrent dans la catégorie « nous nous protégeons le derrière ». Parce qu'au Québec, on le sait, personne n'est imputable. Et moi, je ne blâme pas les gens de première ligne. D'abord, ils sont débordés, ils sont fatigués. Ils vivent au quotidien dans des dossiers sur le plan émotif, psychologique, qui sont déchirants. Ils sont en surcharge de travail. Ils ne sont pas soutenus correctement. Puis l'État a fait des choix. Là, je comprends qu'on est en mode rattrapage, là. Et en plus, on les empêche de parler. Parce qu'ils ne peuvent pas, de façon officielle, communiquer. Ils ne peuvent pas sortir en disant, écoutez, là, on ne peut plus s'occuper de ces enfants-là au Québec. On les échappe, puis ce n'est pas de notre faute. Ils vont se faire suspendre. On va avoir des mesures disciplinaires. Ça, c'est le quotidien. C'est ça qui se passe. Combien m'écrivent de façon anonyme en disant, si vous parlez de moi, je suis fait. Si vous identifiez là où je travaille, ma carrière est terminée. Mais nos bons gestionnaires, nos bons administrateurs, nos bons politiciens, eux autres, s'en lavent les mains, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, il y a des enfants qui subissent des mauvais traitements. Puis quand on regarde aussi cette espèce d'obsession de vouloir absolument préserver des liens avec des parents débiles, des parents irresponsables, des parents qui ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, bien non, on continue. On va superviser des visites. On va confier le petit, la petite au bonhomme. Ouais, mais il n'est pas capable de s'en occuper. Il y a un historique. Ah, c'est pas grave. Le lien biologique est tellement important. Il y a une limite à vouloir garder des liens avec des gens qui sont toxiques puis des gens qui sont dangereux pour leurs enfants. Je trouve ça effrayant. Et il y a la réaction du ministre Carman hier, là, son bureau, dire ben, « on prend acte de... » C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est l'État québécois qui est responsable de ce qui se passe. Et moi, je souhaite que des gens parlent, que des gens le disent, que des gens le dénoncent. Je parle des gens de l'intérieur. Et juste pour conclure là-dessus, le juge a dit, parce qu'on voulait interdire, tu comprends, de rendre public beaucoup de détails. Il faut protéger les enfants qui sont impliqués dans ça. Mais le juge dit, si c'est pas public, c'est une erreur. Les médias ont l'obligation de transmettre l'information et d'exercer cette pression sur la machine bureaucratique. Ça prend un juge qui a du courage pour rendre des décisions aussi précises et aussi percutantes. Vraiment, toute une affaire. Et en parlant d'abus sur des enfants, je vais juste faire une parenthèse rapide. Je ne sais pas si vous regardez en France ce qui se passe. Le père Bernard Prénat, 74 ans, à Lyon, il a comparu pour des agressions sexuelles sur des mineurs entre 1971 et 1991. Donc pendant 20 ans. Des victimes âgées de 7 à 15 ans. Et il reconnaît les faits. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il a abusé d'enfants plusieurs fois par semaine. Donc, en termes de victimes, là, 4 ou 5 enfants par semaine. Imaginez-vous, là, sur la période de 20 ans, combien d'enfants ont été abusés. Et ce prêtre, vicaire, aumônier des scouts de Lyon, faisait disons, l'admiration des parents, quand on regarde les rapports de presse. Ce n'est qu'en 2015 que plusieurs scouts ont brisé le silence et ont accusé Prénat devant la justice. Et entre autres, une des victimes est allée se confier au cardinal de Lyon pour justement obtenir la certitude qu'il ne fera pas d'autres victimes, d'autres enfants. Le fameux cardinal Barbarin qui vient de passer dans le moulin de la justice. Et là, c'est quand il a vu qu'il était toujours avec d'autres enfants qu'il a décidé que là, ça suffisait. Un autre, ça, qui a été protégé par le système. Il y en a quand même quelques-uns. On va aller retrouver Marc tout de suite, 6h12. Du coup d'œil vers quoi, la Rive-Nord? Très bien, merci beaucoup. On va regarder, bien sûr, ce qui se passe concernant la situation en Iran. Quelques nouvelles rapides. D'abord, le New York Times a diffusé des images qui tendent à démontrer qu'il y a eu non pas un, mais deux missiles qui ont touché l'avion ukrainien. On sait qu'il y aura une réunion à Londres également. Demain, le Canada y participe, justement pour tenter d'avoir une espèce de front commun pour faire avancer l'enquête. L'enquête qui va prendre du temps, ça c'est clair, c'est très long. Et vous êtes en Iran. Et on s'entend que ce n'est pas un pays qui est très démocratique, très ouvert, très limpide. Donc, on peut s'attendre à ce que ça prenne bien du temps. Et le ministre Champagne, qui est en route vers Londres, évidemment, lui est là pour porter les intérêts des familles des victimes qui veulent rapatrier les corps. Ça aussi, c'est une procédure qui est extrêmement complexe. Maintenant, on va aller retrouver sur le terrain Fabrice de Pierrebourg, qui, vous le savez, est notre envoyé spécial en Irak. Et ce matin, il est dans un endroit, ce qu'on pourrait appeler une espèce de refuge de centaines de djihadistes. C'est un massif montagneux qui est situé au sud-ouest de Mossoul. Alors, Fabrice, d'abord, vous êtes là-bas avec des combattants kurdes.
Oui, c'est ça, Paul. Je suis ici avec un détachement de Peshmerga, donc les combattants kurdes. C'est leur poste le plus avancé. C'est une montagne qui s'appelle le mont Karachok. Et effectivement, ils servent de refuge depuis plusieurs mois et ça s'accélère. D'ailleurs, ils ont remarqué depuis plusieurs semaines à environ 500 combattants djihadistes, dont certains sont venus de l'étranger, on dit du Pakistan, d'Algérie, de Tchétchénie. C'est une montagne qui est truffée de cavernes en contrebas de l'eau où on est, qui leur servent d'abri. Et de là, ils mènent leurs opérations sur un énorme territoire qui s'étend tout au sud de Mossoul, presque jusqu'à la frontière syrienne, quasiment en toute impunité. Ils profitent du fait que le territoire n'est pas contrôlé ni par l'armée irakienne et les milices, ni par les Peshmerga, pour harceler les forces de sécurité intérieure, mener des attaques nocturnes, faire des assassinats, des embuscades, poser des bombes sur les routes. Et la coalition a déjà bombardé à plusieurs reprises à cette montagne, qui ressemble un peu finalement à ce qu'on avait vu en Afghanistan, les fameuses montagnes de Tora Bora, mais en vain. Je veux vous dire, Paul, puis que les djihadistes sont vraiment visibles souvent à l'œil nu d'ici, du poste où on est. Et je suis avec le colonel Sourout, donc qui commande ce détachement de 14 000 soldats. Et lui, il me dit qu'il l'a remarqué, et ça c'est l'inquiétude dont on parlait hier, qu'ils arrivent de plus en plus nombreux, ces djihadistes, et qu'ils ont creusé un réseau de tunnels qui relie les grottes dans cette montagne en utilisant une technique particulière qui est faite en zigzag. Ce qui veut dire que quand parfois ils mènent des opérations, les djihadistes sont protégés du souffle ou des explosions des grenades ou des tirs. Et ces grottes sont vraiment très longues, ces tunnels sont très longs. Ils ont même des panneaux solaires qui sont capables de voir, qui alimentent des générateurs pour alimenter leurs moyens de communication. Mais aussi, figurez-vous, des marteaux-piqueurs avec lesquels ils creusent sans arrêt des galeries. Il dit, l'an passé, ils ont fait une mission, l'été passé, ils en ont tué 14 djihadistes. Et beaucoup, d'ailleurs, il y avait beaucoup d'étrangers et les étrangers souvent se suicident. Ils ne veulent pas être pris vivants, contrairement aux djihadistes locaux. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'ils vont profiter de plus en plus du fait que la coalition a mis en pause ses opérations terrestres pour continuer à se développer ici. C'est pour eux comme un sanctuaire. L'armée irakienne dit ne peut pas mettre non plus un checkpoint dans chaque village. Puis il dit qu'il y a aussi une sympathie de la part de la population locale, les musulmans sunnites, qui n'en peuvent plus des exactions des fameux milices qui affrontent les États-Unis, là, qui ont encore hier bombardé une base américaine au nord de Bagdad. Il dit ça, c'est un vrai problème, mais lui aussi me répète encore une fois que l'État islamique, Daesh, c'est une idéologie, ça ne s'éradiquera pas uniquement par les moyens militaires, parce que c'est une idéologie qui est très forte, très ancrée, il faudra à un moment donné travailler sur du long terme.
Fabrice, la description que tu fais, là, ça me fait penser énormément à l'Afghanistan, et ça donne aussi comme impression que les djihadistes connaissent le territoire, contrôlent le territoire, et que c'est une guerre là, de tranchées.
Oui, puis donc il faut figurer, c'est comme une montagne, on a l'impression qu'elle est posée dans la vallée. Et eux contrôlent toute la vallée au pied, mais c'est une montagne, je ne sais pas, moi, qui fait à peu près 1000 mètres de haut, qui est très longue, Et effectivement, ils se réfugient dans les grottes. Il faudrait une opération terrestre majeure pour les éradiquer. C'est-à-dire que il faudrait peut-être des milliers de soldats, mais pour l'instant, ce qui inquiète les Peshmergas, c'est qu'encore une fois, toute la tension entre les États-Unis et l'Iran, qui se répercute sur le terrain ici, perturbe un peu les opérations. Lui, il me dit néanmoins que s'il y avait une urgence, il pourrait toujours profiter des moyens aériens de la coalition, parce que ces moyens aériens ne sont pas interrompus, puisqu'ils risquent moins d'être en contact sur le terrain avec des milices locales qui sont hostiles, je dirais, à la puissance étrangère. Mais oui, il est là depuis au moins 2-3 ans. Il a vu plusieurs seuils d'afflux de combattants étrangers, mais le dernier qu'il a vu est consécutif à la chute de Barouz en Syrie, donc la chute du fameux califat d'État islamique. Et il dit que ça prend du temps, mais ils ont interrogé des prisonniers qui leur ont dit ah, les consignes qu'on nous avait données, c'est de nous regrouper justement dans ces massifs montagneux-là, on est plus à l'abri, et la journée et la nuit, surtout faire des opérations de harcèlement vis-à-vis des forces de sécurité. Mais c'est un territoire qui contrôle en dessous, qui est quand même assez large. Puis on le voit, là, c'est une grande vallée, on voit uniquement une base irakienne. Mais tout à l'heure, une petite anecdote qui est véridique. Quand on est arrivé, il a pris les jumelles, ce fameux colonel qui nous accompagne, et on voyait une petite rivière en bas, et on voyait effectivement un individu. Il m'a dit, ça, c'est un djihadiste. Il est en bas, et parfois, la journée, il chasse, il tue les animaux, des biches, là. Ils viennent les chercher quasiment sous... ils font attention de ne pas être pris sous le tir des Kurdes, qui n'ont pas non plus des fusils de longue portée, mais qui n'ont pas de snipers aussi. Donc, ils savent qu'ils ont quand même une relative impunité. Quoi.
Merci beaucoup. Fais attention à toi, Fabrice de Pierrebourg, qui se trouve présentement donc près de Mossoul, dans ce secteur montagneux. Rapidement, les autres nouvelles ce matin. Les cliniques d'hiver, dont on parle tant, on a beau avoir augmenté le nombre de places, supposément. Je dis bien supposément parce que je ne fais pas confiance aux données du ministère. Comme on dit en bon chinois, je ne les trosse pas. Mais la demande est forte. La population vieillit. Les gens ont des problèmes respiratoires, la grippe. Les taux d'occupation à l'urgence explosent. C'est comme ça depuis des années. Savez-vous quoi? Je suis tellement tanné d'entendre le même discours. La CAQ, les libéraux, les péquistes, c'est la même affaire. J'écoutais ça hier, là, puis l'administration, puis bon, puis là, on a rajouté des lits, puis j'écoutais la ministre McCann, puis ah, ben vous savez, ça fait juste un an qu'on est au pouvoir. Ben oui. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de prévoir, de soigner les gens dans un délai qui est acceptable? Puis là, j'entendais Mme McCann dire, ben là, ça avance, on négocie avec les docteurs. Pour changer le mode de rémunération, ça va permettre de soigner plus de monde. On prend combien d'années, ça? Les pharmaciens, là, ça fait combien d'années que ça traîne? Je comprends qu'il y a un projet de loi, là. C'est une joke. Puis pendant ce temps-là, ben c'est 150% d'occupation dans telle urgence du Québec. Puis t'es votant là. Puis là, tu te fais dire qu'il y a 40% des gens qui ne devraient pas être là. Puis savez-vous quoi? C'est toujours la même explication. C'est parce qu'on ne peut pas monter les gens sur les étages. Pourquoi? Parce que les lits sont occupés par des gens qui ne devraient pas être là dans certains cas. Puis pourquoi ils sont là? Bien parce qu'on ne peut pas les envoyer dans des centres de soins, réadaptation ou longue durée. Puis en plus, on n'a pas de ressources pour ouvrir d'autres lits. Fait que c'est pour ça que vous êtes pogné à l'urgence. Puis 40% des gens qui devraient être ailleurs ne peuvent pas vraiment aller ailleurs parce que quand tu appelles ailleurs, ça ne répond pas ou il n'y a pas de place. Fait que tu fais quoi? Tu vas à l'urgence. Mais ça, là, je vais vous répéter la même affaire en janvier l'année prochaine. Parce que j'ai répété ça en janvier l'an dernier, puis ça doit faire 15 ans que je répète ce même type de constat. Également, les boissons gazeuses qui sont moins populaires, mais ça demeure quand même la principale source de consommation de sucre pour les gens. Donc, il y a moins de boissons gazeuses, mais de plus en plus de thé et de café sucré. Ça, c'est en explosion en termes de consommation. Un mot également sur les nouveaux autobus de la Société de transport de Montréal. C'est dans The Gazette ce matin. Selon les versions, là, c'est 4 ou 6 autobus qui, sur livraison, ont été retournés. Les autobus, ils sont arrivés à la STM et étaient défectueux. Alors, sur les 32 qui ont été livrés, on sait que la flotte, au total... C'est 830 nouveaux autobus qui coûtent pas loin d'1 milliard. Et il y a 300 de ces autobus là qui doivent être livrés. Je rappelle que le mois de janvier n'est pas un mois propice pour certains autobus. Alors, j'imagine que quand le temps froid ou plus froid va s'installer, on va se retrouver avec une série de problèmes. Je vais vous parler aussi tantôt de l'escouade de la mobilité qui va opérer partout à Montréal. Moi, ça me fait rire quand ils me disent « L'objectif, ce n'est pas de donner de contraventions. » Bien sûr. Bien sûr, l'idée, c'est de rendre la circulation fluide. Mais en même temps, tu sais, c'est une source de revenus. Puis en même temps, hier, ils ont annoncé qu'ils augmentaient le prix des contraventions. L'affichage en français, ça, c'est dans la presse ce matin. Donc, des gens qui sont, en fait, des entreprises, des commerces qui sont récalcitrants, Subway. Tu sais, on leur demande de faire un additif. D'autres l'ont fait, mais il y a des joueurs qui refusent de le faire puis qui, là, officiellement, promettent qu'ils vont le faire. Écoutez, ils ont eu trois ans pour trouver un additif, tu sais, simple, restaurant. Puis je lisais les propos des gens de l'Office de la langue française, là, pas très convaincus qui sont déterminés à faire appliquer la loi puis le règlement, là. Sérieusement, là? Encore dans l'espèce d'approche, on ne veut pas punir. Quand tu donnes 3 ans à quelqu'un pour se conformer, puis la chaîne Subway ne le fait pas. Quoi le problème? Ah, on va le faire cette année. Ça fait le tour de nos manchettes de ce matin. 6h24, secteur de Terrebonne, la 25.